Libre échange. Chantal Delatoine.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission. Alors des destins qui se croisent, qui s'entrecroisent, des personnalités, eh bien il faut savoir l'écrire ce genre de choses. Eh bien c'est ce qu'on trouve dans le livre de Gérald Tenenbaum, Les Harmoniques, c'est publié aux éditions de l'Aube. Gérald, bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Jéricho. Bien sûr, je vous connaissais, mais je n'avais pas lu votre livre, donc vous avez eu tout à fait raison d'en parler. Et au passage, nous avons adressé un petit salut à Liliane Bockel.
Oui, Liliane Bockel qui m'a parlé de vous et qui m'a dit que voilà, les conversations avec vous étaient intéressantes et c'est ce qui m'a mis sur votre chemin.
On va être obligé de couper ça au montage, hein, Gérald.
Ah bon ?
Mais non, je plaisante, évidemment, je plaisante. Vous publiez, et on parlera de vous plus précisément après, j'ai envie de connaître votre personnalité, vous publiez Les Harmoniques aux éditions de l'Aube et c'est vrai, c'est un parcours qui me semble très très intéressant parce que vous multipliez les rencontres, on se balade un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est difficile à écrire ce genre de choses?
C'est vrai que c'est un livre qui est un petit peu conçu comme un puzzle. On propose un puzzle au lecteur et donc je l'ai écrit aussi de cette façon-là. Et c'est une réflexion en même temps, c'est une réflexion sur le hasard. Le hasard qui intéresse finalement tout le monde, qui intéresse les mathématiciens, mais qui intéresse les physiciens, qui intéresse les philosophes.
Parce qu'il interroge le hasard.
Il interroge, c'est vrai que c'est ce qui nous est donné, et puis les opportunités qu'on est capable de saisir, et puis celles qu'on laisse passer, c'est donc le hasard, il nous étreint, je dirais, sous toutes ses formes.
Alors, justement, cette notion de hasard est très difficile, mais on se dit, je vais écrire sur le hasard, on part comme ça, quand on écrit, expliquez-nous votre démarche.
La démarche, au départ, c'était l'idée d'un rendez-vous fixé par le destin et qui s'étale sur une vingtaine d'années. Et puis, en même temps, ensuite, au cours de l'écriture, se sont dessinés d'autres schémas qui sont apparus un petit peu tout seuls. Et parmi ces schémas, il y a celui de la substitution, c'est celui de substituer un être à l'autre, pas forcément sous une forme négative, mais au contraire pour se saisir du destin de l'autre. Pour l'aider, c'est l'amitié, c'est l'amour, ce sont des sentiments qui nous dirigent vers l'altérité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé dans l'écriture.
Alors, quand je parlais de construction de livres, c'est vrai que la construction est particulière, bien sûr,
oui.
Mais on vous suit très bien, hein, il n'y a pas de problème. Je dis ça à nos auditeurs d'ailleurs, parce qu'on pourrait imaginer que ce soit difficilement accessible, c'est absolument pas le cas. On vous suit parfaitement bien.
Oui, c'est un puzzle, mais oui. Qu'on reconstitue assez facilement au fur et à mesure. Et puis ensuite, bon, c'est un livre un peu choral, quoi. Je veux dire, avec quatre destins qui au départ n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui sont dans des lieux différents, dans des temps différents. Et puis toutes ces histoires convergent.
Alors, est-ce que vous avez l'impression que dans la vie c'est comme ça finalement?
Oui.
Que certaines rencontres ne se seraient pas faites, que finalement elles se font.
Oui, tout à fait. Les hasards, saisir les hasards dans l'existence, c'est quelque chose, je crois, qui m'a toujours fasciné.
C'est difficile de saisir le hasard.
C'est à la fois c'est difficile et en même temps quelquefois ça vous est donné. Donc bon, on va le saisir parce que c'est là et puis parce que il y a une pulsion qui fait que vous allez le saisir. Et puis à d'autres moments, eh bien les opportunités sont là et puis on va les laisser passer. Ou alors on va les laisser passer parce qu'on est engagé dans autre chose, parce qu'on est entravé. Et deux de mes personnages finalement sont entravés par des engagements ou des pressions ou des culpabilités qui sont plus fortes qu'eux. Et donc, malgré l'énergie qu'ils peuvent avoir, malgré leur élan vital, eh bien, ces entravements vont les retenir et vont les empêcher de réaliser leur existence comme ils auraient voulu la réaliser.
Alors, là, on est chez le romancier,
oui.
Bien entendu. C'est vrai qu'on fait toujours le parallèle avec la vie qu'on mène soi-même, hein, bien sûr.
Certainement.
Moi, j'ai lu votre livre avec ça sans arrêt, en me disant, effectivement, il y a eu des opportunités, je n'ai pas été capable. Mais la face du monde en eût été changée.
Certainement, certainement.
Alors vous, vous êtes mené par vos personnages, vous avancez comment ?
Dans l'écriture ?
Dans l'écriture. Pour leur donner ces trajectoires qui se retrouvent, qui se déplacent, qui trouvent comme ça des relations possibles.
Disons que dès le départ, bon, j'ai un canevas qui est extrêmement précis dans l'écriture.
Mais vous avez l'objectif, vous avez la fin.
J'ai l'objectif, j'ai la fin.
Alors, vous avez la fin.
Ah oui, ça, j'ai la fin. Et tous mes romans sont construits à partir de la fin que j'imagine. C'est-à-dire que je n'écris pas la fin au début, comme font certains romanciers, je l'écris à la fin. Mais j'ai cette fin en ligne de mire pendant toute l'écriture. Et pour moi, c'est très important que la fin soit signifiante. Je trouve que dans beaucoup de livres, beaucoup de films, on est séduit par le début, puis on est déçu par la fin. Et pour moi, la fin, c'est ce avec quoi le lecteur va repartir. Et donc, cette fin doit être pleine, elle doit être grosse, elle doit être enceinte de quelque chose. Et pour ça, je travaille toujours énormément les fins qui sont comme un cadeau que j'ai envie d'offrir au lecteur.
Alors, ces lecteurs, dans votre livre, ils gardent quand même sa liberté. Parce qu'on suit vos personnages, on suit les trajectoires, on suit tout ça, mais on est quand même, on est spectateur. C'est-à-dire que bon, on avance avec eux et en même temps, on les regarde comme ça. Et moi, j'ai eu l'impression que vous écriviez comme ça. C'est-à-dire que vous écrivez, je me trompe peut-être, hein, vous écrivez et vous les laissez avancer. Vous me dites que quand même, c'était beaucoup plus dirigé que ça, finalement. Puisque vous connaissez la fin,
connaissais la fin, mais en même temps.
Et entre le début et la fin, qu'est-ce qui se passe ?
Entre le début et la fin, il y a une évolution des personnages. Il y a certains personnages qui finalement, des personnages secondaires, mais qui se trouvent avoir une importance plus grande que celle que j'avais imaginée au départ. Il y a les personnages. Tous les écrivains le disent, mais c'est vrai, ils ont leur vie propre et à un moment donné, on s'aperçoit que bon, on a prévu quelque chose et puis non, mon personnage ne peut pas faire ça. Il ne peut tel qu'il est, tel que je l'ai animé jusqu'à présent. Eh bien, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire ou au contraire quelque chose qu'il va être obligé de faire parce qu'il est comme ça. Et ça, c'est toujours extrêmement étonnant. Enfin, c'est même un peu déstabilisant quelquefois. On a construit un personnage et puis on s'aperçoit que, eh bien, entre les différents entre les différents jalons entre lesquels il est construit, eh bien, ce personnage ne peut pas agir n'importe comment, de n'importe quelle façon.
Alors, vous dites que c'est déroutant, mais c'est aussi jubilatoire.
Ça peut être jubilatoire. C'est vrai que dans certains cas, c'est une contrainte. Dans d'autres cas, il y a effectivement un plaisir qui est sécrété par cette vie propre que peuvent avoir les personnages.
Et cette surprise qu'ils vous font.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors, il y a eu des surprises ?
Il y a eu des surprises, particulièrement sur les personnages secondaires, mais aussi sur ces rapports finalement très intimes qui se sont tissés entre les quatre personnages principaux.
Alors là, on a un petit peu tissé la toile du livre, mais sans tout dévoiler parce que
non,
il faut laisser lire les lecteurs vraiment jusqu'au bout, il faut les laisser constituer ce puzzle effectivement, il faut qu'ils suivent comme ça la trajectoire des uns et des autres. Les parcours sont très très intéressants, ils sont surprenants aussi, ils sont surprenants pour l'auteur, mais ils sont surprenants pour le lecteur aussi par moment.
Oui, c'est
donc
vrai, ouais.
Bien sûr.
Libre échange sur Jéricho.
Gérald Tenenbaum est sur le plateau de Radio Jéricho. Il vient de publier Les Harmoniques. C'est un roman et c'est aux éditions de l'Aube. Alors, racontez-nous un petit peu le pitch, comme on le ferait au cinéma, mais en restant relativement en retrait, si vous pouvez, parce que c'est évidemment un petit peu difficile.
Écoutez, l'histoire commence à Venise. On est au Débarcadère.
C'est important pour vous, Venise.
Un homme, oui, bien sûr, c'est le lieu à la fois de toutes les rencontres. C'est évidemment un lieu romantique et puis c'est aussi le lieu du carnaval avec les masques, avec les gens qui ne sont pas forcément ce qu'ils paraissent être. Et donc, il y a un homme qui fait les 100 pas devant le Débarcadère. Il attend dans le Vaporetto, et puis une femme descend de ce Vaporetto, ils ne se parlent pas, et ils entrent dans un des plus beaux palaces de Venise, qui est le Danieli. Et ils s'assiedent face à face, et puis voilà, c'est le premier chapitre, donc c'est cette histoire-là. Et ensuite, on est déplacé dans le temps, on va à Buenos Aires, on va à Paris, on va à Madrid, on va dans d'autres lieux, on va même en Patagonie. Et puis, donc, il y a quatre personnages. Il y a Pierre, qui est un mathématicien, qui est...
Ressemble, Pierre ? C'est vous ?
Non, c'est pas moi. Je ne suis pas un de ces écrivains qui se regardent eux-mêmes dans la glace pour écrire. En revanche, il est forcément façonné à partir des expériences que j'ai eues de la recherche mathématique et en particulier de cette prison que peut être la recherche qui va vous emprisonner l'esprit pendant des années, enfin des mois ou des années, selon le problème sur lequel on cherche. Et ça, c'est quelque chose évidemment que j'ai vécu. Et certains problèmes m'ont occupé pendant plusieurs années et ça a vraiment, je dirais, entravé ma liberté d'une certaine façon. Et puis il y a un journaliste, Samuel, qui lui est un petit peu spectateur du monde. Il rend compte de la vie des autres, mais lui, il reste un peu sur le seuil. Mais petit à petit, ce journaliste va s'impliquer, justement, par amitié. Et puis, il y a une jeune femme, Keïla, dont la sœur jumelle a disparu en Argentine, sous la dictature. De chaque minute qui passe, elle n'a droit qu'à 30 secondes. Il y a une sorte de la culpabilité des survivants. Et puis, il y a une auteure de romans jeunesse, une jeune femme qui, elle, crée des mondes, qui crée des mondes pour les autres et qui reste aussi un petit peu en marge du monde. Alors, tous ces gens vont se retrouver, se croiser, se toucher. Et il va se passer beaucoup de péripéties entre ces quatre personnages et plus d'autres personnages secondaires dont j'ai pas parlé, mais qui ont une importance grandissante dans le roman.
Alors, justement, ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au départ, les personnages secondaires sont vraiment secondaires.
Oui.
Puis au fur et à mesure, c'est vrai, vous leur donnez vie, vous leur donnez chair, vous créez quelque chose autour de ces personnages. Mais moi, je voudrais qu'on revienne aux quatre principaux héros de votre héros et héroïne de votre, de votre roman, parce qu'ils sont très typés, en fin de compte.
Oui.
Donc, l'inspiration vient d'où ? L'influence vient d'où ? Bon, le mathématicien, quoi que vous en disiez, c'est quand même un peu vous de ce point de vue-là, notamment par l'entrave. Hein,
oui,
dont vous
c'est
avez
vrai,
parlé tout à l'heure.
Par l'entrave, par l'implication dans.
Parce que vous parlez de quelque chose que vous connaissez.
Oui, de toute façon, je crois que c'est important de parler de ce qu'on connaît. Je veux dire, c'est très difficile de parler de ce qu'on ne connaît pas, ou alors il faut faire beaucoup de recherches documentaires. Bon, ce que j'ai fait, par exemple, par rapport à l'Argentine. Mais c'est vrai que.
Le Danieli, non, vous connaissez.
Le Danieli, écoutez, j'y suis passé il y a très, 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 très longtemps. Mais bon, c'est un hôtel mythique, Georges Sand, etc. Enfin bon, c'est toute une histoire. Et
je parlais de cette influence puisque vos personnages sont très, ils sont visuels, ils existent vraiment. Je veux dire, ils sont décrits.
Ils sont décrits.
Vous nous les donnez tels.
Oui, c'est un petit peu comme dans les films de Demy où chacun a sa musique particulière. Et j'avais, pour moi, c'est très important. Enfin, je suis souvent gêné dans les romans quand on a des personnages différents mais qui parlent de la même façon, qui s'expriment de la même façon. Et là, j'ai fait très attention à ce que chacun ait sa psychologie particulière, à sa manière de... sa mélodie. Chacun a sa mélodie.
Et la psychologie du mathématicien ?
Ben, la psychologie du mathématicien, c'est cette tension permanente qu'il y a entre le réel et l'idéal, entre, je dirais pas l'imaginaire, mais l'idéal. C'est-à-dire que le monde des mathématiques est un monde idéal où les choses s'enchaînent parfaitement, où tout est rigide d'une certaine façon, bien que les mathématiques ne se produisent pas dans la rigidité, elles se produisent dans un foisonnement, elles se produisent dans une véritable... dans une énergie affective. Mais le mathématicien, il est attiré par une certaine manière par la perfection. Et comme la vie, elle, est imparfaite, il y a une tension qui peut aller jusqu'à une forme de désespoir.
Et donc la littérature est une thérapie ?
Oh, je dirais pas jusque-là. Non, c'est un plaisir. Disons que les mathématiques, c'est quand même un travail extrêmement solitaire. Et
La recherche
recherche mathématique, c'est un travail solitaire. On communique avec quelques personnes dans le monde, mais finalement très peu, parce que dès qu'on avance sur des chemins un petit peu escarpés...
Il y a
beaucoup moins de monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec uniquement quelques personnes. Alors que la littérature, c'est quand même la communication. C'est la communication très proche avec le lointain qu'est le lecteur. Et ça, c'est une entreprise, c'est un pari sur moi-même que j'ai toujours eu envie de réaliser depuis l'enfance et que je suis très heureux de pouvoir emprunter dans mon travail littéraire.
Oui, c'est ça. Alors, on voit bien, hein, maintenant que je vous connais un peu mieux, on voit bien les chemins suivis, on suit tout ça, et j'invite les auditeurs à vous lire Gérald Tenenbaum. Ça s'appelle Les Harmoniques, c'est publié aux éditions de l'Aube. C'est difficile d'en parler parce que si on commence à décrire, vous allez partir sur des chemins, et il vaut mieux lire ce livre, lisez-le, et puis vous verrez bien. Voilà. Et puis après, vous enverrez un mail à Gérald Tenenbaum en lui disant ce que vous en pensez. Vous êtes d'accord avec ça ?
Avec grand plaisir, et bien je sûr, réponds à tous les mails.
Mais bien sûr, et vous répondrez. C'est ce que font d'ailleurs de plus en plus les écrivains, hein, qui permettent qu'on corresponde avec eux.
Il y a cette communication à travers le livre.
Vous n'êtes plus seul.
Et puis ensuite, il peut y avoir une communication directement avec le lecteur. Et c'est très enrichissant, c'est très important, je pense, pour un écrivain de pouvoir échanger avec un lecteur. Et puis le lecteur s'approprie le livre et il lui appartient.
Oui, et puis parfois, il fait découvrir à l'écrivain certaines choses.
Oui, c'est vrai.
Que l'écrivain n'a même pas imaginé. C'est comme
alors
le peintre
ça,
ou c'est
ça,
comme...
Ça, c'est systématique. Pour chacun de mes livres, c'est souvent au bout d'un an ou deux que finalement, je réalise ce qui a pu sous-tendre le livre.
Et dans ce cas-là, vous le réécririez ?
Non, j'ai jamais eu envie de réécrire un livre, souvent ce que je découvre après coup, c'est une cohérence que je n'avais pas soupçonnée. Et finalement, c'est plutôt rassurant.
Et parfois, il vous arrive d'être en contradiction avec le lecteur ?
Ça peut arriver, mais ça arrive si le lecteur rejette le livre. Mais pour les lecteurs qui l'acceptent, j'ai jamais eu de contradiction sur une interprétation. Un lecteur qui m'aurait dit bon, finalement vous avez écrit ça et où je m'y retrouve pas du tout. Mais il arrive aussi que le lecteur ouvre des portes qui me font réfléchir et qui me font avancer.
Oui, alors ça fait l'objet du prochain livre.
Certainement.
Hein, ça peut faire en tout cas l'objet du prochain livre. Oui. On en parlera d'ailleurs parce que j'ai quand même rencontré quelques écrivains. Je me suis rendu compte qu'ils étaient sans arrêt dans leur tête, en tout cas sur quelque chose. Hein, vraiment. Et bien sûr, ça ne s'arrête jamais. C'est pas.
Non, ça s'arrête jamais.
C'est du 24 heures sur 24 et vacances comprises.
Oui, il y a un moment où quand on a fini d'écrire et quand on a eu l'impression d'avoir écrit ce qu'on avait envie d'écrire, on se dit bon, finalement, là, j'ai fait ce que je voulais. Alors, j'ai peut-être plus forcément envie d'écrire autre chose puisque j'ai écrit ce que je voulais. Et puis, très vite, les idées reviennent. Et puis, on se dit, oui, mais finalement, j'aurais pu... je pourrais décliner les choses d'une autre façon. Et puis, j'ai envie de raconter une autre histoire ou de prendre en compte une autre réalité. Et là, c'est comme ça que germe petit à petit un nouveau roman. Dans mon cas, c'est souvent une idée géométrique au départ. part qui me permet...
Qui n'est pas les mathématiques, je vois.
Oui, c'est une figure, je veux dire, pas forcément une figure très compliquée, mais je veux dire, et quelque chose que j'ai envie de mettre en mots. Et puis, quand je fais mes recherches documentaires, je travaille beaucoup à partir d'images. C'est beaucoup plus, beaucoup plus facile de transformer des images en texte que de transformer un texte en un autre texte, surtout si le premier texte est bon. Alors là, c'est épouvantable. Mais à partir d'images ou de films ou de documentaires, la transition se fait de manière beaucoup plus facilement.
Alors, Gérald Tenenbaum, expliquez-moi cette couverture que j'ai sous les yeux. Alors, à la radio, c'est un peu compliqué, mais ça fait rien, puisque de toute façon, on va aller se procurer le livre, donc on comprendra très vite après nos propos.
Alors, la couverture, donc, on voit un homme qui est assis, donc il est visiblement en costume, il est de dos, il est sur une chaise de bureau et il est en pleine nature, avec un ciel un peu brouillé en face de lui. Alors, c'est finalement la question qui se pose sur cet homme. Déjà, il est décalé. Donc, il est dans un univers à lui, dans un monde qui est visiblement étranger. Donc, est-ce qu'il va s'approprier ce monde? Est-ce qu'il va s'adapter à ce monde? Ou est-ce qu'il va rester dans son univers en marge du monde? Et puis, je dirais que la grande question face à cet homme assis, c'est est-ce qu'il va se lever? Est-ce qu'il va s'engager? Est-ce qu'il va se mettre en prise sur le monde? Ou est-ce qu'il va rester dans ses représentations mentales? Et cette couverture, je la trouve très juste par rapport au livre, parce que c'est vraiment un livre sur l'engagement.
Oui, alors justement, je la trouve aussi très juste, c'est pour ça que je voulais que vous en parliez.
Oui.
Elle n'est pas inerte du tout.
Non, au contraire.
Tout élément a un sens.
Oui, exactement. Il y a ce ciel, il y a cette nature, alors qui peut évoquer, par exemple, la Patagonie, puisqu'il y a une partie du livre qui se passe en Patagonie. Mais d'une manière générale, c'est l'homme face au monde. C'est un défi, je veux dire. On est face au monde. Est-ce qu'on va agir sur le monde ou est-ce qu'on va se contenter d'agir sur soi-même? Est-ce qu'on va se replier ou est-ce qu'on va se lever? Si on se lève, c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est un pas vers l'autre ou est-ce que c'est encore vers soi-même? Et je crois que la réponse, en tout cas dans mon livre, c'est vraiment d'avancer vers l'autre, vers l'altérité, vers le soin qu'on peut avoir pour l'autre. Et donc cet homme, dans ma tête, oui, je pense qu'il va se lever.
Alors écoutez, si dans la tête de Gérald Tenenbaum, il va se lever, moi aussi. Dans la mienne, il se lève. Mais alors, il y a autre chose quand même sur ce descriptif, c'est qu'effectivement, il peut se lever, mais j'ai envie de vous dire que se lever, il y a manière et manière de se lever. Il peut plonger aussi, parce qu'on est quand même devant une espèce de précipice.
Disons que
il peut se perdre.
C'est toujours dangereux.
Il y a un danger là.
Oui, bouger, se lever, agir, c'est toujours dangereux. Et c'est le courage qu'il faut pour s'engager. C'est vrai que certains de mes personnages s'engagent, et ça demande un courage. Le livre se déroule sur une vingtaine d'années. Et effectivement, ce courage, on n'est pas forcément capable de le recueillir tout de suite. Ça demande du temps, ça peut demander du temps.
Alors, ça n'est pas parce qu'on vient de vous décrire justement la couverture du livre que la lecture ne s'impose pas, bien au contraire, parce que vous allez faire évidemment la relation avec la... Ce qui n'est pas toujours le cas des écrivains, qui parfois mettent il y a une première page, une couverture qui n'est pas descriptive.
Oui, c'est vrai.
Bon, et là, vous avez choisi ça. C'est l'aube qui a choisi ça.
On l'a choisi ensemble.
Vous l'avez choisi ensemble. Oui. Le titre, c'est vous aussi?
Ah, le titre, c'est moi. Ça correspond parfaitement
les harmoniques.
C'est tous les sens différents. Oui. Le sens mathématique, le sens acoustique, le sens musical, c'était vraiment un titre qui était surdéterminé.
Oui, c'est ça, le sens de la vie de manière générale. Enfin, c'est très, très intéressant. Et on voit bien, et ça, c'est votre esprit mathématique. Écoutez, moi qui n'ai jamais rien compris aux maths, c'est votre esprit mathématique de faire que les choses se rejoignent.
Oui, il y a cette convergence de partir de situations qui sont complètement différentes, avec des gens qui sont dans des problématiques différentes, et puis ça va se rejoindre. Alors, le hasard passe les plats aussi, donc c'est aussi grâce au hasard, et il y a une réflexion permanente sur le hasard, finalement, dans ce livre. Et puis aussi, bon, il y a un jeu de substitution des personnages les uns par rapport aux autres, comme si finalement nos vies étaient sous-tendues par des cordes vibrantes, et que voilà, selon qu'on pince la corde d'une manière ou d'une autre, on entend un son qui peut être différent, et ces sons peuvent interagir les uns avec les autres. C'est un peu le paradigme du livre.
Oui, alors justement, ce que vous dites reste un peu mystérieux, mais c'est normal, hein, j'avertis les auditeurs, c'est tout à fait normal. Et moi, vous savez ce que je leur conseille? Je leur conseille d'aller à Venise, Danelli, voilà. Avec le livre dans la poche. Et ça, alors, je crois que la boucle serait bouclée. Gérald Tenenbaum, merci d'avoir été l'invité de Radio Jéricho.
Merci, Chantal.
Alors, je rappelle les harmoniques, bien sûr, aux éditions de l'Aube. Et c'était Gérald Tenenbaum. Merci à tous et à bientôt.